Donc bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler en tant que journaliste scientifique. Je suis journaliste scientifique indépendant ou plutôt payé à la pige, c'est-à-dire qu'on me paye, on me commande des articles ou j'en propose, et on me paye au nombre de signes qui est commandé et qui est rendu. Donc ça, c'est mon travail. Donc je parle d'un endroit situé, et en fait je vais amener un témoignage plutôt. Enfin, je suis pas chercheur en communication, en sciences de la communication. Donc c'est pas un travail de recherche sur comment nous on travaille, mais plutôt voilà, en tant que journaliste, les outils que je connais. Et en même temps, je parle de façon pas par rapport à mes outils à moi, parce que je suis très situé, c'est-à-dire que j'ai travaillé pour la plateforme hypothèse.org pendant 2 ans et demi. Donc une plateforme d'open edition, donc je connais certaines plateformes plus que mes confrères et consoeurs. Et donc en fait, je vais plus vous montrer des outils qu'on nous propose en tant que journaliste, et souvent par les éditeurs, les gros éditeurs, je ne vais pas dire grands, parce que ce serait un jugement de valeur par rapport à d'autres petits éditeurs, mais les gros, les 5 gros surtout, hein, que je vais citer tout au long, mais je ne vais pas forcément faire la liste là. En fait, nous, en tant que journaliste, on parle de l'accès aux sources primaires. Et les sources primaires, en fait, on a 2 formes de sources. Les sources primaires, c'est en fait les articles scientifiques. Voilà, on dit que c'est nos sources primaires parce que, en tant que journaliste scientifique, parce que les journalistes généralistes n'ont pas cette connaissance des sources. Eux, ils ont plutôt que des sources secondaires, en fait, et nous, on a des sources primaires. On va aller lire les articles scientifiques avec les connaissances qu'on a, c'est-à-dire qu'on est non expert, c'est-à-dire que même si moi, en tant que journaliste scientifique, j'ai eu quand même une formation de sciences, c'est-à-dire que j'ai été jusqu'à un master 2 de bioinformatique en faisant un IUP avant. Donc j'ai une certaine expertise au départ, sauf que je ne peux pas dire que je suis expert en bioinformatique, parce que je ne peux pas. C'était il y a très longtemps, mon master, et que je l'ai eu en. Ouais, c'est il y a très longtemps. Et donc, en fait, le temps qui passe, par rapport à quelqu'un, un chercheur, une chercheuse en bioinformatique, j'ai pas l'expertise. Donc, moi, je suis expert en rien, à part en interaction avec le milieu de la recherche. Et c'est ça, en fait, que j'amène en tant que journaliste scientifique. Donc voilà, on a nos deux catégories de sources, les primaires et les secondaires. Et je vais vous parler surtout donc des sources primaires. En général, donc on a énormément de communiqués de presse, et c'est pas que venant des éditeurs. C'est de tout. Moi, j'ai des constructeurs de machines industrielles qui m'envoient des mails. Voilà. Il y a des, Il y a des constructeurs de kits pour contre le Covid qui m'ont envoyé des choses, voilà. Et donc il faut trier l'information qui arrive dans les boîtes mail parce que en fait il y a beaucoup de choses qui doivent aller directement à la poubelle. et donc on a pour, en tant que, enfin voilà, ce qui vient de, du milieu de la recherche. On a notamment donc les mailing lists, les mailing des institutions, en fait, donc les services de presse du CNRS, des universités qui nous ont dans leur liste et qui nous envoient les mails. Et on a aussi Eureka Alert. Vous ne connaissez pas Eureka Alert, alors que, en fait, la plupart des journalistes scientifiques connaissent ce site. Eureka Alert, alors je vais passer avec Firefox un. Je vais le passer si j'y arrive. Hop. Alors par contre, pour le remettre. Ah. voilà, c'est ça. Eureka Alert, vous voyez, normalement, il y a le logo, oui, à côté. De la 3AS, donc c'est l'éditeur de Science. Et donc, en fait, c'est un portail où on a tous les communiqués de presse, enfin, tout, non, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de communiqués de presse en anglais. Oui, parce qu'il n'y a pas, d'autre langue sur Eureka Alert. Et essentiellement donc des gros éditeurs scientifiques, mais c'est pas que de Science, ça peut être de tous les autres. Et puis bah, je sais pas exactement comment ça se passe, mais ils doivent avoir des deals et voilà, des deals financiers pour payer sur Eureka Alert, pour publier sur Eureka Alert. Et puis les universités, les services de presse peuvent aussi publier leur communiqué de presse à cet endroit-là. Et donc, en fait, c'est une grosse source pour les journalistes scientifiques. Si je reviens... Si, hop. C'est bon, là ? Ouais. Ah oui, mais par contre... hop. On a aussi donc les éditeurs scientifiques du type Science, Nature, PNAS, PLOS, etc. Nous, on peut être abonné à une mailing list d'embargo, d'articles sous embargo. Ça se passe en tant que journaliste. On doit aller sur un portail de l'éditeur. Et on doit montrer patte blanche, c'est-à-dire qu'on doit, alors ça dépend des éditeurs, mais on doit donc mettre voilà, des métadonnées personnelles, nom, prénom, etc. Mais aussi donner pour certains ces trois liens vers des articles qu'on a déjà publiés et donc qui parlent de science. Donc en fait, il y a quand même un... Voilà, ça veut dire que tout le monde ne peut pas le faire et... Les jeunes journalistes scientifiques doivent se débrouiller autrement, alors que c'est une grosse source d'information. Donc ça peut être compliqué. Mais par contre, il y a la liste des articles qui vont être publiés dedans. Ensuite, donc toutes les semaines, ou toutes les, ça dépend de ce que décide l'éditeur, on a tous les articles scientifiques qui vont être publiés par exemple, une semaine avant la publication. Et donc, ça nous permet à nous, en tant que journalistes, de pouvoir se préparer à travailler l'article, à poser des questions à des chercheurs, aux auteurs ou à d'autres chercheurs, chercheuses qui sont sur le sujet. En ne diffusant, on s'engage bien sûr quand on remplit le formulaire à ne pas diffuser l'article avant la date de publication. Et donc en fait, ça leur permet en fait, en tant qu'éditeur, ça leur permet d'une part que nous on soit bien informés, mais ça leur permet aussi que l'information arrive en même temps, de façon massive, dans tous les médias, et dès que l'article est publié. Et donc ça, c'est une force de frappe qui est énorme, et c'est pour ça que vous voyez parfois des articles dans tous les médias, tous les gros médias, parler de la même recherche. C'est que en fait, on l'a tous eu dans nos boîtes mail une semaine avant, on décortique nos mails, etc. Ah, celle-là, elle est hyper importante. Je vais faire un article et là, ça va faire. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'à travers le monde, vous allez avoir ça. Parce que justement, comme ils ont. Et c'est quelque chose qui est une denrée rare, une information importante pour préparer notre travail, bah, en fait, on est tenté, tout journaliste scientifique est tenté d'aller. S'inscrire à ce portail, et derrière, ils ont une base de données de journalistes scientifiques qu'ils arrosent donc toutes les semaines. Voilà. Donc, je pense que c'est hyper important à savoir en tant que petit éditeur, parce qu'en fait, vis-à-vis des gros, vous voyez pas du tout ça. Et en fait, eux, ils ont une masse de données d'infos sur nous. qu'ils utilisent. Ah, et donc, ils ont aussi créé des résumés adaptés à la presse pour certains, pas tous, ça dépend, mais ça dépend des sous, des finances qu'ils ont. Et puis, ils nous donnent accès aux PDF, alors avec des systèmes plus ou moins simples, c'est-à-dire que enfin, y a des services différents et c'est un peu parfois un peu compliqué ou d'autres parce qu'il faut se loguer sur la plateforme, etc. Et d'autres comme PLOS par exemple où c'est juste un lien dans le mail. Alors avec, on parlait des trackers tout à l'heure. Je regarde, moi, j'ai mes mails sur Thunderbird et je vois donc qu'il y a des trackers aussi sur ces liens, donc ils savent ce que nous, journalistes, sur quel lien on clique et donc les fréquences, etc. Donc, ils ont énormément d'informations. On a aussi quand même des informations sur des plateformes que vous connaissez un peu plus. La mailing list d'Open Edition. Mais ça, il faut connaître la plateforme. Elle est de plus en plus connue de mes confrères et consoeurs journalistes, notamment en sciences humaines et sociales, mais pas que en sciences STEM. Il y a de plus en plus d'intérêt des journalistes sur des articles, et notamment enfin, sur épistémo, etc., parce que en fait, ça se rapproche de nos sujets, et donc on peut parler de la science à travers ça, et après, eh ben, ça permet d'amener les journalistes scientifiques à parler de sciences humaines et sociales. Et il y a Cairn, qui, très récemment, je crois que c'est 2020, a mis en place un système spécial pour enfin, pour des rédactions, où en fait pour chaque rédaction, en fait, on a accès en temps, on a un compte, chaque journaliste a un compte, et il peut donc on a accès aux articles de Cairn. Alors je dis ça de façon théorique parce que moi ce n'est pas le cas. Voilà, on me l'a expliqué et je devrais avoir le service, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. Et en fait, on peut donc lire tous ces articles de façon en accès gratuit pour nous. Et en fait, on va pouvoir mettre un lien dans nos articles, un lien qui est consultable gratuitement par nos lecteurs sans qu'ils se connectent à la plateforme de Cairn. Donc, et c'est pendant, en fait, il sera valide pendant 2 semaines. Et donc, en fait, ça permet, en fait, pour nous, en fait, de parler d'articles qui sont sous paywall, mais on rend accessible quand même à nos lecteurs et lectrices, alors que avant, bah, c'était un peu compliqué de mettre un lien vers un article de Kern, parce qu'en fait, on renvoyait vers un paywall qui était impossible à passer outre, parce que en tant que simple citoyen, citoyenne, on va pas payer un accès Kern. Donc en fait, ils se sont rendus compte de ça, et ça leur permet en fait de propager dans le grand public leur contenu. En tant que journaliste, on va aussi suivre sur les réseaux sociaux les acteurs de la recherche. On va suivre les comptes institutionnels, et donc ces comptes institutionnels font la promotion, la diffusion de certaines recherches, pas toutes, évidemment, mais parce que ce serait impossible. Mais on peut voir ça, et puis bien sûr, comme on a quand même des domaines de prédilection en tant que journaliste, hein, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas écrire sur la physique quantique, ou alors ça va être très... je vais prendre du temps, parce que je ne connais pas. Et donc, en fait, on connaît les chercheurs, chercheuses qui travaillent sur les sujets qu'on suit, et donc on peut les suivre, et ces chercheurs et chercheuses, instinctivement, quand ils sont sur Twitter, ils vont diffuser leur article quand il est publié. Donc nous, ça nous permet de les suivre aussi, alors que on peut les connaître dans la vraie vie. Et en fait, ils vont être beaucoup moins diffuseurs de leur propre contenu quand on va discuter avec eux dans un café, etc. En fait, ils vont beaucoup moins nous amener le lien, l'article, ou même en papier. On va discuter. Et par contre, sur Twitter, ils vont beaucoup plus diffuser. Et puis, sur les réseaux sociaux, on peut aussi, et moi, c'est ce que je fais beaucoup, puisque je travaille beaucoup sur le milieu de la recherche et la politique de la recherche, etc., c'est le suivi des discussions. On peut aussi suivre, par exemple, sur un article scientifique, un auteur, une autrice a publié un tweet, derrière, on peut voir ce qui se discute. Et donc, en tant que journaliste, comprendre les tenants et les aboutissants, les limites de la recherche, sans avoir à appeler forcément tout de suite une experte ou un expert du sujet, parce qu'on aura vu quelques réactions. Évidemment, c'est des réactions qui sont publiques, etc. Il y a des limites. Ensuite, pour accéder, enfin, pour quand on veut accéder aux articles scientifiques, c'est notamment en fait en préparation d'interview. C'est-à-dire que moi, je l'ai fait au mois d'août encore. J'ai interviewé plusieurs chercheurs et chercheuses. Avant de les interviewer, je vais sur leur site et je vais voir ce qu'ils ont publié. Et donc je vais regarder un petit peu, je vais accéder à leurs articles et lire leurs articles pour leur poser les questions les plus pertinentes sur le sujet. Voilà. Donc ça, c'est un truc très important aussi dans notre lien avec la diffusion du savoir, en fait. Et puis, pendant une interview, même si j'ai dit qu'ils ne faisaient pas la diffusion de leurs articles, ils citent beaucoup, par contre, leurs collègues. En fait, c'est là où on va récupérer, nous, des références. Et on va scoltiner ensuite la biblio de 5 minutes, ok. Ensuite, donc il y a les problèmes d'accès. Pendant tout un temps, il y avait certaines rédactions qui avaient accès à certaines revues, comme Nature, Science, etc. C'est de plus en plus délicat, vu les finances des rédactions. Donc, l'open access est hyper important pour nous, pour pouvoir accéder aux articles, en fait. Et puis, vous avez vu le petit corbeau de Sci-Hub, qui nous permet aussi un outil super important. Moi, je fais partie des collègues qui informent sur la recherche et sur les pratiques de la recherche. J'ai fait un article en 2018 dans le magazine Vraiment, qui n'existe plus. Qui parlait des vices et vertus de l'évaluation par les pairs, et donc qui faisait un constat d'un milieu hyper hétérogène et dynamique. Et donc, en fait, c'est assez compliqué de parler de votre milieu au grand public, parce qu'en fait, c'est énorme. Et donc, le grand public va avoir l'impression que c'est la méthode scientifique et la publication, c'est Science, Nature, alors que il y a beaucoup plus. On parle aussi beaucoup de certaines affaires, donc comme l'affaire d'Olivier Voynet en sciences, en biologie. Moi, j'avais écrit un article qui s'était basé en fait sur un article de Nature News, d'un journaliste de Nature, qui parlait de Cassie Hsu, donc qui est un bioinformaticien. Et moi, donc j'ai publié dans le temps un article qui reprenait cet article et qui l'augmentait, et en fait je parlais de ce chercheur en bioinformatique qui a plus de 60 000 citations, parce que en fait il était dans les reviewers et il demandait à faire citer ses articles, et on avait des listes de dizaines d'articles de lui. J'ai aussi parlé du canular qui a été fait en 2015 sur ma Fesoli, et donc la revue Société, si je ne me trompe pas. Et bien sûr, les collègues de Mediapart ont parlé, et d'autres collègues ont parlé de Didier Raoult et de toutes les problématiques qu'il a utilisé en fait par rapport au système de la publication scientifique. Je vais aller plus vite, il reste 2 minutes. du côté états-unien, on a aussi une équipe qui s'est formée autour de Retraction Watch, et deux journalistes scientifiques, Adam Marcus et Ivan Oransky, qui font la liste de tous les articles rétractés, donc qui sont dépubliés pour diverses raisons, bonnes ou mauvaises, plagiat ou je me suis trompé dans ma recherche. Et ils en ont fait une base de données qui s'appelle Retraction Database. Et puis, pour finir, sur les metrics dont on parlait tout à l'heure, la plupart des journalistes scientifiques, ils connaissent l'impact factor, et en fait, c'est un peu ça qui, sur ce métrique sur lequel on se base, ou en tout cas en général les journalistes scientifiques se basent, pour savoir si un article, ça vaut le coup de le traiter en tant que journaliste scientifique. On est conscient que ça pose beaucoup de problèmes, mais le problème, c'est que nous, comme on n'est pas experts, c'est très difficile d'évaluer pourquoi cet article, il est important dans ce domaine. Et donc, c'est vrai que c'est assez compliqué en tant que non-expert d'évaluer, en fait. Et donc, en fait, est-ce que c'est le moins pire des solutions actuelles ou du pif, de la pseudo-expertise, parce que moi, j'ai fait de la bio-info, donc je connais, mais en fait, non, parce que ça fait 10 ans que j'en ai pas fait, ou plus. Les altermetrics, ça peut être un autre regard possible sur la production scientifique, et moi je pense que ça peut être un outil sur lequel nous, en tant que journalistes, on peut se baser plus tard pour mieux évaluer ce qu'il faut mettre en avant. Alors altermétrique, est-ce que c'est une vraie alternative? J'en parlais hier et ça n'a pas l'air d'être le cas. Et en fait, les données, elles sont pas en libre accès, donc c'est un peu compliqué en tant que journaliste, nous, de se baser là-dessus. Et pourtant, on a aussi un besoin d'accès à ces données et les données d'usage aussi pour enquêter. C'est-à-dire que nous, ça peut être aussi, parce que moi, j'ai fait de la bioinformatique et j'ai été développeur, je peux faire un script Python pour aller chercher dans des données et pouvoir travailler sur qu'est-ce qui se passe dans l'édition scientifique, qu'est-ce qui se passe pour tel chercheur, chercheuse, etc. Donc, je pense que c'est hyper important d'avoir accès pour nous aux données de l'édition, en fait. Et donc, merci. Moi, je suis Martin Clavé, et beaucoup me connaissent sur Twitter en Martin Œil. J'ai un site qui s'appelle soundofscience.fr où là, il y a moins d'actu parce que j'ai travaillé pour des médias qui me payaient. Donc, j'avais pas le temps d'écrire sur Sound of Science, mais qui parle du milieu de la recherche. Et vous pouvez me contacter sur Martin, à martin.clavé@soundofscience.fr.
Merci.